locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme de ce soir, direction Nantes. En cette journée, soirée de fête de la musique, on écoutera le témoignage de Martin Joffre, membre du collectif Nantais Sweat Lodge. Ce collectif spécialisé dans les fêtes électro-circassiennes a vu la mairie de Saint-Herblain annuler leurs deux soirées avant le début de leur événement, 24 heures avant le début de leur événement. Résultat, 80 000 euros engagés et le risque de voir cet assaut qui atteindra ses 20 ans dans 2 ans, bon, ils ont 18 ans, disparaître brutalement. En deuxième partie d'émission, on entendra Thomas qui prie d'une peur féroce à cause des tornades violentissimes qui ont frappé l'Hexagone, a décidé de nous raconter quoi faire si d'aventure on se retrouvait nez à nez avec l'une d'entre elles. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
On les a vus à Angers en 2010 et en 2014 pour des fêtes déguisées sur le parking du Shabada. On les a revus en septembre dernier avec leur fête foraine électro à l'occasion des accroche-cœurs. Je vous laisse avec Martin du collectif Sweat Lodge, une interview enregistrée cet après-midi au téléphone. Si elle veut bien se lancer.
Les 5 et 6 mai derniers devaient avoir lieu deux soirées par les Nantais du collectif Sweat Lodge. Mais le 4 mai, soit la veille, un arrêté municipal émis par Saint-Herblain interdisait la tenue de ces deux soirées. Coût de l'annulation, 80 000 euros, 5 emplois à temps partiel mis en péril et près de 40 intermittents du spectacle qui ont été impactés par cette annulation. Avec nous, pour en parler, l'administrateur de l'association Sweat Lodge, Martin Joffre. Salut Martin.
Bonjour, salut Hugo.
Les soirées organisées par Sweat Lodge depuis un peu moins de 20 ans sont des vrais espaces de liberté et de lâcher prise. Vous avez développé l'art de bien faire la fête en proposant des soirées techno déguisées qui s'appellent les Sweat Lodge Parties. Les décors sont toujours incroyables, des ambiances circassiennes, des mondes qui se rencontrent, de la techno donc en passant par le cirque, le théâtre, la magie. Pour ces soirées des 5 et 6 mai, vous aviez décidé de vous installer à Saint-Herblain, donc dans l'agglomération nantaise, une première. Martin, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter ton jeudi 4 mai, la veille de ces deux soirées Sweat Lodge ?
Alors, pour une fois, moi, j'étais pas sur site avec toute l'équipe, parce qu'il faut savoir que Sweat Lodge, en plus de nos fêtes, on produit un certain nombre de spectacles. Et moi, avec mon travail d'administrateur, je suis plus en backline, donc j'étais resté au bureau travailler, mais je suivais de loin parce que je savais qu'il y avait cette fameuse commission de sécurité qui devait passer. Et donc, du coup, dans le milieu de l'après-midi, j'ai appris que la commission de sécurité n'avait pas accepté, avait émis ce qu'on appelle un avis défavorable, en fait, pour que cette fête ait lieu, pour que ces fêtes aient lieu. Et donc, du coup, directement, j'ai appelé le directeur du cabinet du maire de Saint-Herblain, Jean-Alain Navarre, avec qui je m'entendais plutôt bien, pour savoir si la mairie allait suivre les préconisations de cette commission de sécurité. Parce qu'il faut bien, comprendre qu'il y a l'avis de cette commission et après il peut y avoir un avis politique qui dépasse ça et qui dit on y va quand même, on ose faire le geste que les fêtes aient lieu. Et donc du coup Jean-Alain m'a bien indiqué qu'ils allaient suivre les préconisations de la commission de sécu. À partir de là, il nous restait peu de temps. Avant que l'événement ait réellement lieu, donc il a fallu prévenir un certain nombre de personnes, les artistes qui allaient prendre l'avion, les prestataires. Il fallait quand même prévenir tout le monde pour pas que les frais engagés soient encore plus importants et pour pas mettre des gens dans la panade. Ce que j'oublie de dire quand même là-dedans, c'est que Sweat Lodge, c'est un collectif. Donc évidemment que j'ai pas pris cette décision et tout ça dans mon coin. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à 19h, On a essayé de rédiger des propositions compensatoires pour dire, OK, la commission de sécurité, elle a dit ceci, cela, cela, mais nous, voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce qu'on propose pour que ça ait quand même lieu. Mais malheureusement, on a reçu vraiment par email l'arrêté qui nous interdisait. Et à partir de là, je suis allé sur site, je suis allé rencontrer toute l'équipe, donc une quarantaine de personnes qui travaillaient depuis 3 semaines, si on compte toute la résidence de création de la scénographie et tout ça. Donc je suis allé rencontrer toute l'équipe et c'est de façon collective qu'on a décidé si on continuait coûte que coûte ou s'il était plus sage d'arrêter pour que nos frais soient moindres et puis pour prévenir nos partenaires. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est l'attitude de tout ce collectif, de la maturité avec laquelle a été prise cette décision d'arrêter tout ça, d'arrêter la fête. Les gens n'étaient pas en colère, les gens étaient tristes et les gens ont commencé dès le soir à démonter ce qu'ils avaient monté depuis, ça faisait quasiment une semaine qu'on était sur site. Donc voilà comment je résumerai ma journée du jeudi.
La question évidemment que ça soulève, c'est celle de la communication entre la mairie de Saint-Herblain et les services. Parce qu'en fait, ça faisait 7 mois que vous aviez déposé ces dates-là auprès de la mairie, que la mairie avait donné son accord. Et donc en fait, la mairie et les services n'ont absolument pas communiqué ensemble.
Il faut que je revienne un petit peu en arrière. On a l'habitude d'organiser des fêtes depuis 18 ans, nous. Et l'usage, en général, que ce soit à Nantes, à Rennes, à Saint-Herblain et même à Angers, où on est venu 2 fois, c'est de déposer un dossier de demande de manifestation. Où on nous demande un certain nombre d'éléments. Et c'est vrai qu'après, ces éléments-là sont redispatchés à l'ensemble des services municipaux, mais aussi aux pompiers et aux flics. Et là, ça n'a pas été fait. Et selon la loi, c'était sans doute à nous, en effet, de prévenir les pompiers. Sauf que c'est tellement l'usage habituellement qu'on est accompagné par la mairie qui fait le job, qu'il y a aussi, il faut l'avouer, sans doute un manque de notre part à cet endroit. On aurait dû se méfier un petit peu, vu que c'était la première fois qu'on collaborait avec cette mairie, et peut-être assurer un petit peu plus les choses. C'est pour ça qu'on préconise qu'il y ait des process qui soient mis en place, qui soient les mêmes à peu près dans les mêmes communes. Un peu comme quand on demande des subventions, il existe un truc qui s'appelle le CERFA, et qu'on demande une subvention pour fabriquer un spectacle au département, à la région ou bien à la commune, c'est quand même le même dossier qu'on remplit. Et comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Là, si le process avait été le même à Saint-Herblain qu'il l'est à Nantes, Rennes, et je refais pas la liste, on se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de communication. Est-ce que ce manque de communication était entre nous et Saint-Herblain ou entre Saint-Herblain et ses services? La question reste ouverte et on est tout à fait prêt à engager le dialogue avec Saint-Herblain à cet endroit-là. Mais pour l'instant, on n'a aucun dialogue avec eux. On a voulu demander une négociation amiable. Ils ne nous répondent pas. Donc, ça continue à être compliqué de dialoguer avec eux, même un mois et demi après l'événement.
On va revenir après sur votre relation avec Saint-Herblain, justement. Juste pour continuer sur cette visite des services de sécurité, la veille, donc le 4, vous dites aussi dans la presse, parce que Ouest France a quand même vraiment bien couvert tout ce qui s'est passé.
Oui,
il y a eu vraiment de nombreux articles à ce sujet. Au moment de la visite, tu disais que, en fait, vous non plus, vous n'étiez pas tout à fait prêt, quoi.
Oui, mais ce qui peut arriver quand on monte un site, c'est-à-dire que le site n'est pas complètement prêt, mais on explique à la commission de sécu que d'ici le lendemain, telle ou telle chose, évidemment, serait mise en place. Et en général, quand ça se passe bien avec la commission de sécu, les gens disent « Ok, on vous fait confiance » ou « À ce moment-là, on repassera pour ces 2-3 petites choses le lendemain. » Mais là, le truc, c'est que ce qui était retoqué, c'était les accès pompiers, et que les accès pompiers, pour eux, c'était impossible qu'il y ait une mesure compensatoire à ce endroit-là. Voilà. Sauf que des accès pompiers, c'était écrit sur les tout premiers documents. C'est pas quelque chose qu'on découvre comme quand on monte le chapiteau. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Le chapiteau, à la limite, on peut se dire, ah bah là, ça, il fallait qu'il soit monté pour qu'on s'en rende compte. Les accès pompiers, on pouvait s'en rendre compte bien avant. Et quand bien même, on aurait peut-être pu trouver des solutions, vu qu'on était juste à côté du Zénith, qui accueille des milliers de personnes. Sans doute que si il y avait une réelle volonté, on aurait trouvé des solutions.
On va revenir après justement sur tout cet aspect politique autour du milieu de la techno et de la fête en général. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc toujours à Ouest France, tu leur as dit que vous alliez contacter le pôle régional des musiques actuelles, le syndicat des cirques et des compagnies de création, mais tu disais aussi que tu n'étais pas hyper optimiste. Est-ce que tu l'as fait? Et si tu l'as fait, qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
D'accord. Alors le syndicat du cirque de création nous aide énormément. C'est Yanis Jean, leur délégué général, qui s'occupe de la médiation entre nous et Saint-Herblain. Donc il y a un véritable accompagnement. Pour ce qui est du pôle régional musique actuelle, Vianel, directeur, nous a mis en contact avec des régisseurs dès la veille pour qu'on puisse avoir d'autres expertises sur ce qui était faisable comme mesure compensatoire. Mais depuis, on peut pas dire qu'on ait un appui politique de leur part parce que c'est pas leur endroit, ils sont pas au même endroit qu'un syndicat. Eux, ils sont plus dans un travail d'observatoire. Mais c'est pas des gens qui sont engagés à nos côtés sur ce combat-là.
Est-ce que vous en avez eu du soutien justement politique?
On a du... là, je viens de recevoir en fin de matinée un email de Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, mais aussi la présidente de Nantes Métropole, qui nous a assuré de son soutien et que ses équipes allaient revenir vers moi pour voir ce qu'il était possible de mettre en œuvre.
Ah oui, donc ça, c'est quand même une vraie, vraie bonne nouvelle, ça.
Si ça s'accompagne de faits, oui. Si ça s'accompagne de faits, oui. Mais c'est déjà un vrai geste. Un mail peut être un vrai geste, déjà, oui.
D'un point de vue politique, c'est vrai que c'est...
Saint-Herblain sera au courant qu'on a le soutien de Nantes et de Nantes Métropole.
Il y a aussi évidemment la question des assurances sur ces 80 000 euros engagés. Bon, je suppose qu'elles ne vont pas trop vous suivre.
Non, j'ai même pas posé la question.
Ouais.
J'ai même pas posé la question parce que on avait essuyé une tempête il y a 2 ans et même là, c'était pas pris en charge. Donc, les assurances pour l'événementiel coûtent extrêmement cher et nous, on n'en a pas spécifiquement pour ce genre de choses. Je suis même pas sûr que ça existe. On en a pour couvrir notre public, nos salariés, les bénévoles, mais on n'en a pas et le matériel, mais pas spécifiquement pour ce genre d'événement. C'est pas l'endroit des assurances.
Oui.
C'est pas l'endroit des assurances.
Donc pour éponger un peu ces 80 000 euros, hein, donc je le rappelle, 80 000 euros, c'est 5 emplois implantants aussi qui sont en péril, 40 intermittents du spectacle qui ont été impactés par cette annulation de la Sweat Lodge à Nantes les 5 et 6 mai dernier. Pour éponger cette dette de 80 000 euros que vous avez lancé une cagnotte. Est-ce
Absolument.
Que vous avez senti du soutien? Est-ce que vous sentez du soutien de la personne qui vous suive?
Ah oui, on a un soutien énorme. En fait, ce qui vient largement compenser ce coup dur, c'est le soutien qu'on reçoit et du public et de nos pairs. Ce qu'on appelle nos pairs, c'est les professionnels qui sont à peu près dans les mêmes réseaux que nous. Donc déjà, cette cagnotte, on a plus de 5000 euros dessus. Des gens comme le Stérolux et la SMAC de Nantes nous a fait un don de 1000 euros. Androgyne, qui gère le Macadam, nous ont fait un virement de 200 euros. Donc vous voyez, c'est des gens, on n'a jamais été en concurrence avec eux. On est des gens avec qui on aime collaborer ensemble sur le territoire. Et tous les autres, donc c'est des dons du public, de gens qui nous soutiennent, des gens qui aiment notre travail. Au niveau des pairs, il y a plus de 40 compagnies ou festivals et des grands noms qui ont envoyé un courrier directement au maire de Saint-Herblain pour lui demander de ne pas nous laisser mourir. Donc on a plus de 40 pairs qui ont écrit des courriers postaux au maire de Saint-Herblain. On a aussi lancé une pétition la semaine dernière qui a reçu, là on doit être à 2700
exactement, on approche les 2700,
Donc on est très content de tout ça. Je reviens un tout petit peu sur quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure et que j'y pensais là. Même s'il y a des choses sur lesquelles on peut être mis en cause dont tu me parlais tout à l'heure, est-ce que ça mérite qu'une asso en meure, qu'une asso qui a 18 ans qui est reconnue et par le public et par les professionnels, est-ce que ça mérite un arrêt de mort? C'est ça surtout la question. Je reviens un peu en arrière, mais ça me semble important de mettre ça dans la balance. Quoi.
Parce que là si jamais il n'y a pas de solution qui sont trouvées, oui, c'est la mort de l'association Sweat Lodge.
Ah oui, ça suffit. C'est quelques milliers d'euros, ça peut sembler pas grand-chose, mais ça suffit à... On n'est pas assez solide, on est des gens qui travaillons à 95% en autonomie. Les seules subventions qu'on a, c'est pour créer des spectacles, et c'est déjà super. Mais tout le reste, c'est sur nos ressources propres, en vendant des spectacles ou en créant des événements. Donc forcément, ça induit aussi une fragilité.
Et ça, toi, tu es depuis combien de temps dans cette association?
Ça fait 18 ans. Je suis un des cofondateurs.
Un des cofondateurs.
Donc, j'y ai passé quasiment la moitié de ma vie.
Et d'un point de vue, comment tu te sens?
Là, je suis dans l'action. Là, ça fait bientôt deux mois, que tous les jours, il y a des choses à faire, des choses à mettre en œuvre. Donc, en fait, tant qu'on est dans l'action, je dirais que ça va, parce que il y a des leviers. Je suis en dialogue avec des gens comme toi, avec le public, avec des professionnels. Donc, tant qu'il y a des leviers, ça va. En fait, ce sera peut-être plutôt quand, si malheureusement il n'y a pas d'issue positive, de se retrouver avec une forme de vide, sans doute. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, moi, je suis pas écrasé par tout ça. Je suis plutôt dynamisé par tout ça, parce qu'il faut continuer à résister. Ce qui est très intéressant, c'est que ça déborde la question de Sweat Lodge, et je crois qu'on va l'aborder aussi, et que ça donne envie de militer, pas simplement pour son petit collectif, pour sa petite personne, mais pour un mouvement, pas que forcément techno, mais tous les gens qui utilisent l'espace public, les chapiteaux, les arts de la rue, de défendre une conception de l'art et de la culture. Et voilà, je dirais que dans quel état je me sens, je me sens militant. Je me sens militant et je me dis que ce qui arrive à Sweat Lodge, ça peut peut-être permettre que ça n'arrive pas à d'autres si on arrive à tirer les bonnes sonnettes d'alarme, en fait.
Oui, carrément. On va revenir là-dessus justement juste après. Je voulais juste revenir avant sur la pétition. Donc pour l'instant, 2700 signatures. Et en fait, l'objet de cette pétition, c'est aussi que les gens appuient vos démarches auprès de la mairie de Saint-Herblain pour que la mairie de Saint-Herblain prenne aussi sa part de responsabilité dans cet échec.
Absolument.
Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas, il n'y a aucun dialogue qui est possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
C'est un souhait de ma part de ne pas être entré en dialogue directement avec la mairie de Saint-Herblain, et je préférais que ça passe par une médiation et donc par Yannis Jean, le délégué général du syndicat du siècle de création. Parce qu'on marche sur des œufs forcément, et que moi j'ai pas l'habitude de ce type de situation. Je ne comprends pas comment une mairie ne peut pas répondre à un syndicat professionnel qui a lui l'habitude de négocier avec les ministères. Je trouve que c'est à la limite du manque de respect, selon moi. Je n'explique pas que au moins on réponde, même pas à Sweat Lodge, à un syndicat.
Oui, et puis il y a toutes les personnes qui soutiennent aussi Sweat Lodge et donc qui sont signataires de cette pétition.
Oui, et puis les 40 personnes qui ont envoyé un courrier postal à Monsieur le maire. Je pense qu'aucun n'a reçu le moindre retour. Et pourtant, il y a des festivals comme Garo Rock, Astropolis, le Fusion Fest en Allemagne, et je parlais des grosses compagnies de cirque, comme les Colporteurs, le Barreau des Ailes, des grosses compagnies de rue, je vais pas faire la liste, mais des gens qui comptent dans le milieu.
La pétition, vous dites des choses très fortes. Je vais lire un extrait et ensuite on va en parler un peu. Je cite « La situation vécue actuellement par Sweat Lodge est malheureusement emblématique d'une absence de considération et de reconnaissance qui perdure depuis les premières rêves techno des années 90. Si un collectif tel que le nôtre, avec près de 20 ans d'expérience dans l'organisation de fêtes éphémères, est encore régulièrement empêché d'aller au bout de ses projets, on ne peut que s'inquiéter pour le futur. »
Absolument. Et je termine même en parlant de la la possibilité que les nouvelles générations d'organisateurs aillent du coup vers l'illégalité. Parce que si on regarde les jeunes,
c'est ça, le risque.
Qui ont 20-25 ans, l'âge à laquelle nous on a commencé à faire des fêtes, si ces gens-là se disent « mais l'espace public, c'est pas pour nous, de toute façon, même si on dépose un dossier, ce sera retoqué », qu'est-ce qu'ils vont faire ? La fête, elle va continuer à rejaillir ailleurs. Et elle se fera de façon illégale. Donc du coup, c'est quand même dommage, alors que nous, on a été capable d'instaurer un dialogue pendant près de 20 ans avec un certain nombre de communes, que ce type de dialogue soit rompu. Parce que les gens, c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter de faire la fête ou d'organiser des fêtes. Et ils auront raison. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut ? Un endroit où il y a une césure dans la société. Pourquoi on... Voilà, il faut continuer à faire comme, selon moi.
Et évidemment, en ce jour de fête de la musique, on a une grosse, grosse pensée pour Steve, qui est finalement voilà, l'exemple du risque engendré par faire la fête aujourd'hui. Et simplement, le fait de faire la fête aujourd'hui est devenu dangereux et pour les structures qui s'engagent et pour les personnes qui participent, si jamais les structures qui s'engagent ne sont finalement pas accompagnées par les pouvoirs publics. C'est aussi...
Oui, on a tous une grosse pensée pour Steve, pour sa famille et pour ses proches, 4 ans après l'événement, bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce que ça dit aussi, cette annulation du soutien des pouvoirs publics, aussi au monde de la techno, qui finalement aujourd'hui fédère tellement, tellement, tellement d'énergie, la jeunesse, mais pas que d'ailleurs.
Je ne sais pas si c'est un manque de soutien à la techno. Je pense que c'est la techno sous certaines de ses formes, parce que j'ose imaginer que lorsqu'elle joue dans les clubs ou dans de gros festivals, la techno a droit de cité. C'est plutôt la question des marges, en fait. C'est la question, parce que nous, on a choisi le chapiteau de cirque. On a choisi d'aller dans les interstices. On a choisi d'aller... même si on est des professionnels, même si on est structuré, on a toujours été dans des endroits un peu contre-culturels, on va dire. Et c'est ça qui fait notre ADN et c'est ce que le public il aime. Et donc c'est plutôt la question de ces interstices qui se pose. Comme on le dit aussi dans la pétition, la ville se densifie, la ville s'urbanise de plus en plus et en plus les riverains, les habitants ont une intolérance de plus en plus forte à la gêne, à la fête. Et donc du coup, c'est ça qui est embêtant. Comment on arrive à conserver des espaces de fête, mais qui ne soient pas parqués à l'extérieur de la ville, parqués dans des endroits dédiés à la fête, mais que ça, on continue à faire commun ensemble. Donc je ne pense pas que ce soit toute la diaspora techno qui soit mise à mal, mais plutôt celle qui joue avec les marges, celle qui joue avec les franges.
Eh bien écoute, merci beaucoup Martin d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Chers auditeurs, auditrices, en cette journée de fête de la musique, on vous invite évidemment à aller soutenir des associations comme celle-là. Vous pouvez retrouver la cagnotte de Sweat Lodge évidemment sur leur site internet et sur tous leurs réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller signer également cette pétition pour que la fête puisse vivre et surtout cet art de faire la fête à la marge, dans des chapiteaux, avec des artistes différents, avec des propositions différentes et toujours... Voilà, qui nous réchauffe le cœur à chaque fois. Merci beaucoup, Martin,
merci
d'avoir
beaucoup,
répondu.
Hugo. Et juste pour terminer, peut-être, vous dire que le 15 juillet, il y a une fête en soutien à Sweat Lodge qui est organisée au Warehouse. Donc le Warehouse, dès le lendemain de l'annulation, Quentin m'a appelé, le directeur du Warehouse, et nous a invités à venir faire une fête de soutien chez eux. Et vous êtes tous, évidemment, les bienvenus pour venir danser sur la musique de Sweat Lodge, du crew Sweat Lodge. Et il y aura l'artiste Louisa qui sera là en guest. Donc soyez les bienvenus. Continuons à faire la fête.
Et c'est le 15 juillet au Warehouse, donc.
À Nantes, oui.
À Nantes. Merci beaucoup, Martin.
Tout de suite, on se laisse en musique avec le coup de cœur de Radio Campus Angers et de son programmateur Étienne Devêche à l'occasion de cette belle fête de la musique. On écoute Me Too avec son morceau Néné. La fête de la musique, c'est un peu tous les jours sur Radio Campus Angers. C'était Néné du groupe Me Too. Formidable, on adore. Voilà, c'était notre coup de cœur à l'occasion de cette fête de la musique.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et avec nous dans les studios, Thomas. Salut Thomas.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Oui.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des tornades. Il y a des mini-tornades qui ont fait des mini-tornades qui ont fait frémir les médias français. Et voilà, aux USA, ce phénomène météorologique est monnaie courante. Chaque année, ce sont entre 800 et 1300 tornades qui frappent le territoire de l'Oncle Sam. Pas plus tard que le mois dernier, de nouvelles tornades ont fait près d'une trentaine de victimes. Et la semaine dernière, une autre a ravagé une petite ville du Texas. 3 morts, plus de 100 blessés. Mais dis-moi, Thomas, elles viennent d'où ces tornades ?
Est-ce que tu connais la célèbre Tornado Alley, Hugo ? Cette vallée au centre des États-Unis, qui va du Texas au Kansas, est l'endroit le plus propice à la création de tornades. Alors, pour avoir une tornade, il vous faudra 3 éléments. Un nuage orageux, appelé cumulonimbus. Vous savez, ce sont ces gros nuages en forme d'enclume. Il nous faut un forçage atmosphérique. Ce sont des vents très rapides en haute altitude et très lents en basse altitude. Puis, un cisaillement des vents. En gros, c'est une variation de direction des vents au sein de l'orage. Et enfin, si tous ces éléments sont regroupés, on aura ce qu'on appelle un orage supercellulaire. L'orage va commencer à tourner sur lui-même et former ce qu'on appelle un mésocyclone, la partie rotative au centre de l'orage. La rotation va passer d'une forme horizontale à verticale. Un tuba à la base du mésocyclone peut alors se former et c'est ce qu'on appelle une tornade.
Mais Thomas, qu'est-ce que je dois faire, moi, si jamais, en France, je me retrouvais face à une de ces tornades ?
Pour prévenir ce genre de danger et éviter la catastrophe, plusieurs réflexes sont à avoir. Déjà, tout simplement, regardez les prévisions de Météo France. Si un jour vous vous trouvez dans une zone à fort risque d'orage, il vous faut prendre des précautions. Ne pas hésiter à regarder du coin de l'œil l'évolution de la situation. En cause, et surtout en France, nous ne sommes pas équipés de systèmes qui alarment et prévient la population en cas de tornade ou d'événements orageux violents. Et enfin, cas de figure extrême, c'est bon, la tornade arrive sur vous. Vous n'avez que quelques minutes avant que celle-ci vous atteigne. Impossible de fuir. Que faire ? Réfugiez-vous dans des lieux sûrs, caves, pièces fermées. Surtout, éloignez-vous au maximum des fenêtres de et portes de votre maison ou appartement. Restez le plus proche possible du sol, au rez-de-chaussée ou au premier étage. Si vous tombez, vous tomberez de moins haut. Et la tornade aura de moins de chances de vous aspirer dans son tuba.
Thomas, est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur les tornades, leur violence, leur taille, leur fréquence ?
Aux États-Unis, pays qui recense le plus de phénomènes tourbillonnaires au monde, avec près de 800 à 1300 tornades chaque année, tu en parlais au début. Ce chiffre n'a pas augmenté en 20 ans. Le réchauffement climatique n'a donc pas d'impact sur le nombre de tornades produites chaque année, selon les scientifiques. Par contre, il est très probable que celle-ci soit plus intense. Les orages qui forment les tornades prennent leur carburant de la chaleur. On le sait, il fait de plus en plus chaud avec le changement climatique. Ce qui a pour effet de rendre plus intenses les orages et potentiellement les tornades par la suite. Donc, pour résumer, si on ne pense pas qu'il y ait plus de tornades qu'avant, il est probable que celle-ci soit plus intense, donc plus dangereuse.
Mais plus dangereuse, comment ? C'est quoi en fait la différence entre une tornade de forte intensité et une tornade de faible intensité ?
Les tornades sont classées d'EF0, la plus faible, à EF5 pour les plus dévastatrices. Ce classement se base sur les dégâts engendrés par la tornade. Mais une grosse tornade ne veut pas dire très dévastatrice. Tout dépend de sa localisation. La plus grosse tornade de l'histoire, la tornade d'El Reno, le 31 mai 2013 aux États-Unis, n'a été classée que F3, en raison des faibles dégâts causés par celle-ci, puisqu'elle est restée en campagne et sur des zones non habitées. Elle mesurait pourtant près de 4,3 km de diamètre, et avec des vents de plus de 475 km/h, pas sûr qu'une tornade comme ça arrive de sitôt en France.
Merci beaucoup Thomas. Et en tout cas, si vous y êtes confronté, n'hésitez pas à suivre les conseils de cette chronique, hein, Thomas.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine, peut-être. On ne sait pas. Si, peut-être.
Oui, peut-être. Si l'envie m'en vient.
Si l'envie t'en vient. Et le pédalo arrive à bon port pour ce soir. Bonne fête de la musique à toutes et à tous. Profitez bien, amusez-vous, profitez de la musique partout, tout le temps. La fête de la musique, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu tout le temps, tous les jours, notamment sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à bord du pédalo. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.